commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire que nous avons intitulée ce matin « En attendant Donald Trump ». Et nous allons nous aider pour réfléchir aux conséquences possibles, d'abord à la trajectoire qui mènerait Donald Trump à nouveau à la Maison-Blanche et ensuite à ses conséquences. Nous sommes accompagnés par Rana Levy, qui est historien et qui est l'auteur de « Le chaos de la démocratie américaine » qui est édité chez Gallimard dans la collection Le Débat et qui sera bientôt disponible en livre de poche. Rana Levy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc, en attendant Trump, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup repose sur l'élection américaine à venir et le possible retour de Donald Trump à la Maison-Blanche avec des conséquences pour l'Ukraine, des conséquences pour le Proche-Orient, des conséquences pour les scènes politiques européennes, notamment à cause de la présence de beaucoup de mouvements d'extrême droite. Mais nous allons peut-être démarrer avec vous, Rana Levy, pour essayer de comprendre ce qui pourrait arrêter, si cela est possible, Donald Trump avant l'élection elle-même. Parce qu'il a quand même un certain nombre de procès en cours ou à venir. Et il existe dans la Constitution américaine un amendement 14 qui indique que si vous avez comploté contre votre propre pays, bien normalement, si vous avez participé de près ou de loin à une tentative ou à une insurrection, à ce moment-là, vous pouvez être disqualifié, vous pouvez même être interdit d'exercer une fonction publique. Donc, comment regardez-vous cette situation juridique et politique, Rana Levy ?
Pour l'instant, elle est incertaine parce qu'on ne sait pas ce que la Cour suprême va décider au cours du mois de mars. On lui aura demandé de presser le pas parce qu'on ne peut pas tenir des primaires républicaines sans savoir si Trump peut se présenter dans les différents États.
Alors, il faut peut-être rappeler que dans deux États, les responsables de ces États, les congrès de ces États, les cours suprêmes de ces États ont considéré que, compte tenu de l'épisode du 6 janvier, c'est-à-dire l'offensive et l'attaque contre le Capitole, et de sa participation à cette opération, Donald Trump ne pouvait pas prétendre être candidat et donc ne pouvait pas être qualifié pour les primaires.
Voilà, c'était la Cour suprême de Colorado et le secrétaire d'État de l'État du Maine. Et ils ont invoqué l'article, la section 3 du 14e amendement qui interdit la réélection ou même la candidature d'un homme public qui a été mêlé à une insurrection. Donc, tout le débat en ce moment entre juristes et entre politiques consiste à savoir si ce constat est généralisable. S'il est généralisable, Trump sera exclu des primaires républicaines et toute la menace Trump qu'on redoute à peu près à travers la planète va disparaître. Donc tout dépend de la décision de la Cour suprême dont on ne peut anticiper les résultats parce que des arguments s'échangent entre juristes. Il y a même des juristes conservateurs qui pensent que la section 3 du 14e amendement s'applique à Trump. Personne ne met en doute qu'il a été mêlé à un mouvement insurrectionnel à la veille et au lendemain des élections de 2020, le tout de savoir ce qu'ils vont décider. Certains pensent que la Cour suprême, après avoir déjà annulé la législation sur l'avortement et le tollé extraordinaire que cela a provoqué, ne s'aventurerait pas à prendre une décision aussi qui a de telles conséquences. Donc, certains supposent que la Cour déciderait de remettre la question à un tribunal fédéral, lequel serait habilité à juger si Trump a participé ou non à une insurrection. D'autres juristes, et parmi lesquels des juristes conservateurs, pense que la section 3 s'applique. Et il faut rappeler aussi que si la Cour suprême décide que la décision dans l'État du Maine et du Colorado est valide, ça s'applique à tous les États des États-Unis. Et donc, du jour au lendemain, Trump est sorti de la course.
Jean-Claude.
Oui. La Cour suprême, les arguments pour que la Cour suprême n'intervienne pas sont premièrement, la troisième partie du 14e amendement mentionne tous les officiers publics, mais ne mentionne pas explicitement le président. Et deuxièmement, c'est un amendement qui vient de la guerre civile aux États-Unis, de Lincoln, et dont l'idée centrale était d'éliminer les personnalités politiques du Sud qui, ayant participé à la lutte de la Confédération contre la Fédération, ne devaient plus participer à la vie politique. Or, il n'a jamais été appliqué. Il n'y a pas de précédent. Et dans la tradition anglo-saxonne, l'absence de précédent vaut presque législation. Donc, il se peut que la Cour suprême dise non, ce n'est pas applicable. En tout état de cause, admettons qu'elle dise que c'est applicable, elle ne jugera pas, elle renverra un jugement fédéral, et le jugement fédéral impliquera un appel si Trump est condamné. Donc, même si la Cour suprême approuve l'application, ça n'arrêtera pas Trump. Et tout le problème est de savoir si l'ensemble des poursuites judiciaires, je crois qu'il y a 71 poursuites.
91,
oui, c'est énorme. L'ensemble des poursuites judiciaires pour Trump ne sont pas actuellement un espèce de tremplin dans l'opinion. C'est-à-dire que l'opinion populaire, j'ose pas dire populiste, mais l'opinion populaire voit dans l'acharnement judiciaire contre Trump la séparation entre, disons, les élites corrompues et le peuple, et Trump apparaît comme le défenseur du peuple. Et donc là, je trouve que la situation de ce fait est extrêmement dangereuse.
C'est une démarque des populismes, d'ailleurs, que d'arriver à faire croire aux uns et aux autres qu'ils sont défendus par quelqu'un qui est notoirement un ennemi de son propre système, ennemi de la démocratie américaine.
Tout le monde observe dans les démocraties l'abaissement du degré de confiance. Les électeurs des démocraties, les peuples, n'ont plus confiance dans les juges, dans les journaux, dans les universités et dans les hommes politiques.
C'est pas une raison pour s'en remettre à des gourous, en tout cas. En tout cas, Rana Levy, comment expliquez-vous, ou comment regardez-vous le fait, justement, qu'évoquait Jean-Claude, que, au fond, à chaque fois qu'il y a une inculpation supplémentaire, ça semble profiter à Donald Trump en termes d'intention de vote dans les primaires républicaines, mais est-ce que ça ne renvoie pas aussi au fait, à la faiblesse du parti républicain qui n'a pas, jusqu'à présent, dégagé quelqu'un qui soit capable de le faire reculer, Rana Levy?
Il ne faut pas sous-estimer le génie politicien de Trump, qui transforme toute inculpation en un atout électoral, par une sorte d'alchimie dont on n'a pas pénétré tous les ressorts. C'est un phénomène nouveau et c'est un phénomène qui est inséparable du populisme. Quant au Parti républicain, le Parti républicain avait maintes occasions d'essayer de museler l'influence de Trump depuis son élection en 2016. Là aussi, c'est un phénomène incompréhensible. On pensait qu'il serait le jouet des caciques républicains qui ont une grande expérience politique. Finalement, c'est lui qui a fini par museler le Parti républicain et à le transformer en parti populiste où les politiques traditionnelles sont sur la défensive, intimidées, et dont le système de primaire aux États-Unis rend totalement dépendant de la machine que Trump a construite. Il y avait la réussite extraordinaire de Trump, c'est d'avoir fait voter des gens qui n'avaient jamais voté auparavant. Et il a renforcé, renfloué le système de primaire par de nouveaux électeurs, et ces nouveaux électeurs tiennent le Parti républicain par la gorge. Et on est dans une situation où, d'une certaine manière, même quand il est en Floride en train de jouer au golf, il tient à distance son parti sous sa coupe par le biais de cette masse d'électeurs populistes qui font maintenant, d'une certaine manière, c'est le socle du Parti républicain. Ce n'est plus un parti de notables, c'est un parti qui est tenu par les auxiliaires de Trump à travers le pays.
Alors, il y a une personne qui a l'air malgré tout d'arriver ou de commencer peut-être à percer. C'est Nikki Haley, qui est l'ancienne représentante des États-Unis aux Nations Unies. Est-ce qu'elle a, à vos yeux, une chance de s'imposer, enfin de s'imposer, le parcours serait évidemment encore extrêmement long, mais est-ce qu'elle a une chance malgré tout de peser dans ce système ?
Il faut l'espérer, il y a une toute petite chance, mais il faut regarder d'abord les chiffres. Les chiffres montrent que dans les primaires, on est à l'état actuel des choses, Trump a 60% d'avance. Et dans l'Iowa, on lui prédit, et dont les primaires auront lieu en début de semaine prochaine, il a 30 points d'avance. Et l'espoir que peuvent avoir le soutien de Nikki Haley, qui est une femme très compétente, qui était un excellent gouverneur, un représentant remarqué des États-Unis aux Nations Unies, c'est qu'elle réduise l'écart dans l'Iowa et qu'elle remporte la prochaine primaire à New Haven, parce qu'à New Haven, Trump, pour l'instant, a 39 points. Elle est arrivée à avoir 32 points. Et un autre candidat qui vient de se retirer, Chris Christie, qui est très hostile à Trump, ses soutiens probablement vont reporter leur suffrage sur elle. Donc s'il réduit l'écart dans l'Iowa et s'il remporte même de peu New Haven, là, on peut assister à une dynamique imprévue, mais c'est la seule possibilité qu'on voit de renverser la tendance, et la tendance est très favorable à Trump.
Jean-Claude.
Oui, c'est la seule chance, si vous voulez, c'est au fond la conversion à l'intérieur du Parti républicain et dans ces deux premières primaires. Mais ça fait beaucoup réfléchir sur ce à quoi réfléchissaient d'ailleurs les constituants américains, c'est que le suffrage universel n'est pas exempt. D'habitude, on dit un individu peut être affligé d'une passion. Et par une espèce d'idéalisme démocratique, on croit que les passions concernent uniquement les individus et ne peuvent pas concerner l'ensemble des individus, c'est-à-dire le suffrage universel. On oublie qu'en Europe, deux des grandes révolutions européennes, la révolution nationale-socialiste en Allemagne et la révolution fasciste en Italie, sont issues du suffrage universel. Le suffrage universel ne garantit pas l'élection du plus raisonnable par rapport au plus passionné et au plus démagogique. Et donc, j'ai le sentiment que les États-Unis sont confrontés, le monde entier est confronté à une très grande épreuve, si vous voulez, c'est-à-dire la capacité de la démocratie à rester sur la voie de la raison.
Donc la Cour suprême aux États-Unis tient entre ses mains une décision dramatiquement historique. Rana Levy, quand on regarde le paysage aujourd'hui international, on s'aperçoit que beaucoup espèrent dans l'arrivée de Trump. Alors commençons par le Proche-Orient, parce que en général, on indique que Netanyahou a plutôt intérêt à faire durer la guerre, d'une part, et d'autre part, a plutôt intérêt aussi à ce que Joe Biden cède la place à son ami Donald Trump. Est-ce encore vrai ? Il est vrai que Netanyahou est de notoriété publique, quelqu'un qui est très inséré dans le Parti républicain, qui a donc beaucoup d'appui dans le Parti républicain, et qui a fait un sacré bout de chemin avec Trump, à l'époque où Trump présidait les États-Unis. Est-ce encore le cas ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il est de l'intérêt du gouvernement actuel d'Israël que Trump soit réélu?
Je crois que Netanyahou, vis-à-vis de Trump, a des positions un peu fragiles depuis qu'il a félicité le président Biden, en 2020 pour son élection. Voilà à quoi sont réduites les passions de Trump, qui depuis l'invective régulièrement et explique que c'est un homme ingrat et qui ne voudrait pas ou ne souhaite plus travailler avec lui. Voilà où on en est dans une affaire où Israël est en guerre, où les États-Unis a une guerre à gérer en Ukraine, que le monde est dans un état d'instabilité inquiétant. et où un candidat à la présidence des États-Unis avec 91 chefs d'inculpation règle des comptes personnels qui peuvent tout à fait dicter sa politique. Je crois que le soutien extraordinaire des États-Unis et du président Biden à Israël depuis le 7 octobre, et surtout au lendemain du 7 octobre, rendent les positionnements un peu toujours acrobatiques de Netanyahou beaucoup plus difficiles qu'on pouvait l'imaginer il y a quelques temps.
Alors, l'autre terrain, c'est l'autre personne qui attend avec une certaine impatience, et en tout cas visiblement, la réélection de Trump, qui paraît être même presque son obligé, c'est évidemment Vladimir Poutine. Donc, Jean-Claude, là, on est dans un cas de figure très schématique, mais très clair.
Il a dit explicitement, il a dit qu'il réglerait l'affaire d'Ukraine en 48 heures, en 24 heures, et son hostilité à l'OTAN est contenue, et malgré les grands progrès qu'a fait l'Europe en termes d'unité de sécurité, d'unité de souveraineté de sa défense, l'Europe n'a aujourd'hui pas la capacité de se substituer totalement aux États-Unis pour équilibrer la puissance de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Donc je pense que Poutine, à juste titre, considère que son principal allié est Trump et attend l'élection de Trump. Mais en même temps, Trump reste un homme imprévisible dans le procès civil. Dans le procès civil à New York, on a la démonstration qu'il falsifiait constamment les comptes de son entreprise pour obtenir tel ou tel avantage, etc. Il a une capacité de mensonge et d'agilité, si vous voulez, qui est surprenante et qui peut-être provoque l'admiration chez certains.
Anna Levy.
On est à la veille, où on est déjà dans une sorte d'affrontement mondial entre des blocs qui sont en train de se former. D'un côté, les démocraties occidentales, et de l'autre, il y a la Russie, la Chine, l'Iran et ses satellites au Moyen-Orient. Et on comprend à quel point une élection de Donald Trump peut peser sur cet affrontement et le perturber un peu plus. La versatilité de Trump risque de fragiliser l'équilibre mondial et de créer d'encourager les satellites, notamment au Moyen-Orient, de multiplier ou de redoubler d'audace. On est dans un moment très de grande fragilité internationale que l'élection de Trump peut exacerber.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Anna Levy, historien, auteur du Chaos de la démocratie américaine. Nous parlons de l'hypothèse d'une réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche et de ses conséquences. Nous en étions aux conséquences internationales. Est-ce qu'il y a quand même un mystère, Anna Levy? C'est que, pour moi en tout cas, il me semblait avoir été à peu près établi qu'il y avait un lien fort entre Trump et Vladimir Poutine, notamment lié à une faillite qui avait menacé Donald Trump et qui a été secourue littéralement par de l'argent venant carrément de Russie et de Vladimir Poutine. Et pourtant, ça ne le disqualifie pas. Dans un pays qui est si vigilant, quand vous entrez aux États-Unis, il faut déclarer qu'on n'est ni communiste, ni ceci, ni cela. Là, on a quand même l'exemple de quelqu'un qui a lié son destin, au fond, au président de la Russie, et qui continue de nous dire... Parce que quand il nous dit qu'il réglerait la question ukrainienne en 48 heures, ça veut dire qu'il donnera satisfaction à Poutine. Point final, Anna Levy.
Je vous dis, Trump, c'est un phénomène très mystérieux parce qu'il a extériorisé, explicité le rapport à la corruption. Il a normalisé la corruption en termes idéologiques. C'est-à-dire, pour ses électeurs, les électeurs se croient être des acteurs et notamment des victimes d'une guerre civile. et dans laquelle les principes ou les fraudes fiscales ou les principes, je dirais, de la société civile jouent beaucoup moins que les fidélités dans les affrontements. Trump les représente, c'est un vrai mystère, c'est un milliardaire, c'est un homme très corrompu, les gens qui le soutiennent ne sont pas ni milliardaires ni forcément corrompus. Mais certains, comme Harvey Mansfield l'a dit dans un article du Wall Street Journal, il a dit, pour eux, Trump, c'est ce qu'il pouvait devenir s'ils avaient un peu plus de chance. Il y a une identification à Trump et une hostilité dans ce schéma de guerre civile américain à ses adversaires qu'il fait pardonner, qui remet au deuxième plan, qui relègue au deuxième plan tous les défauts que la morale ordinaire condamne et qui conduit très souvent en prison et qui, pour lui, représente quasiment un atout électoral.
Jean-Claude Casanova.
Il est essentiellement un homme anti-élite. C'est-à-dire que s'incarne en lui, dans la faveur populaire dont il bénéficie, s'incarne en lui le fait qu'il est contre les élites américaines, quelles qu'elles soient, judiciaires, médiatiques, politiques, etc. Et donc, de ce point de vue, il est très difficile à combattre. Il y a dans le New York Times d'hier un article impressionnant fait par un adversaire de Trump qui dit « Méfiez-vous, ne sous-estimez pas la puissance qu'il exerce, le prestige qu'il exerce, parce que le mécontentement général qui existe dans la société américaine se cristallise en sa faveur. Il dit le contraire de ce que disent toutes les élites américaines. »
Rana Levy.
Qu'est-ce que dit Trump à ses électeurs ? Il dit « Vous êtes des victimes, moi je vous représente ». Il dit que la corruption du système américain est devenue telle que même moi je suis victime. Regardez ce qu'ils sont en train de me faire. Nous sommes tous dans le même bateau et nous avons tous les mêmes adversaires. Et votre seul espoir, notre seul espoir, c'est moi. Et ça marche.
Et en tout cas, la menace plus directe qui s'abattrait sur les Européens, si j'ose dire, s'il était réélu, c'est évidemment le sort de l'OTAN, parce que il a déjà exercé le pouvoir, il a montré qu'il prenait ses distances avec l'OTAN, au point que la chancelière Merkel avait parlé de trahison, puisqu'il mettait en cause le fameux article 5 de l'OTAN. Il a répété cette mise en cause de l'article 5 en disant que si un pays de l'OTAN était attaqué, il n'était pas légitime du tout de répondre, donc c'est le fondement même de l'OTAN. Donc comment regarder cela ? Parce qu'il y a aussi il y a Trump, mais il y a aussi le Congrès. Est-ce que ces affaires-là ne sont pas aussi plus largement dépendantes d'un vote du Congrès que d'une décision d'un président américain ?
Jean-Claude Casanova. Pour mettre un peu d'optimisme, si vous voulez, raisonnons au pire. Admettons Trump élu. Trump élu, le problème américain n'est pas réglé, parce que il y a les élections au Congrès, il y a le relatif degré d'indépendance. Juste avant le départ de Trump, le chef d'état-major américain a refusé d'obéir à des ordres donnés par Trump. Il y a, malgré tout, l'Amérique n'est pas peuplée de gens qui pensent ou qui agiraient comme Trump ou qui sont totalement dénués de moralité comme Trump. Et donc, malgré tout, si j'accepte l'idée que Trump peut être élu, je me réfugie dans l'optimisme, dans la confiance de la résistance que lui opposeront les institutions américaines qui ont été écrites pour se préserver du roi. Il ne faut jamais oublier que la Constitution américaine est écrite par des gens qui ont peur de deux choses. Ils ont peur de l'exécutif, du sommet, et ils ont peur du mob, du peuple, si vous voulez. Et donc, il y a dans la Constitution américaine des capacités de résistance qui peuvent s'opposer même à un président corrompu.
Rana Levy.
Les partis démocrates avait quelques atouts électoraux, il a des atouts électoraux, à la suite notamment de la décision de la Cour suprême et d'autres décisions qui, pour les démocrates, portent atteinte aux libertés individuelles, etc. Le tout est de savoir si le Parti démocrate puisse continuer à contenir et à encadrer une extrême gauche qui, elle, est une extension de tout ce qu'on vient de voir aux États-Unis dans les universités. Et il faut dire que Biden, là-dessus, était très bon, parce que depuis 4 ans, au plan proprement politique, l'extrême gauche démocrate au Congrès n'avait quasiment aucune voix au chapitre et laissait l'administration Biden mener sa politique. Tout dépend des résultats des élections et, pour revenir à la première question que vous avez posée, de la capacité des républicains et des candidats républicains à s'affranchir de l'influence de Trump. Et si Trump gagne haut la main les élections présidentielles, je serais peut-être plus pessimiste que Jean-Claude Casanova.
Alors, on n'a pas eu le temps de parler de Joe Biden précisément, parce qu'il est en grande difficulté d'ailleurs dans les sondages aujourd'hui, mais on aura certainement l'occasion d'y revenir, d'autant que le processus donc des primaires au Parti républicain commence la semaine prochaine, et on en a parlé, et que ça va être évidemment un des moments clés, un premier moment clé de ce parcours qui, à Dieu ne plaise, pourrait nous amener au retour de Trump à la Maison-Blanche. Merci Rana Levy de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous avez écrit « Le chaos de la démocratie américaine » qui est édité chez Gallimard. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous souhaitons un bon week-end. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, samedi prochain, pour une autre édition de Commentaires. Thank you.